Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour un nouveau format des Têtes Chercheuses, où on essaye donc de discuter et de mettre à disposition en format audio un article ou une publication scientifique, j'ai le plaisir de recevoir Damien Van Puyveld, maître de conférence à l'Université de Glasgow, chercheur associé à l'IRSEM aussi, spécialiste du renseignement, pour parler d'un article dont vous êtes l'un des co-auteurs et qui fait le point sur l'une des grandes transformations qui touchent votre sujet de recherche, à savoir la collecte et le traitement massif de données, ce qu'on appelle le big data appliqué au renseignement. Donc bonjour Damien.
Bonjour.
Donc cet article est en anglais et s'intitule donc Beyond the Buzzword, Big Data and National Security Decision Making, que vous avez publié avec Stephen Coulthard et Shahryar Hossein en 2017 dans la revue International Affairs. Et le titre est donc bien choisi puisqu'il s'agit vraiment d'aller au-delà de ce mot que vous qualifiez de buzzword, ce qui est un peu difficile à traduire, mais ça pourrait s'approximer par mot fourre-tout, quoi. Avec en plus l'idée que c'est un concept à la mode et qu'on creuse, qu'on n'interroge pas toujours autant qu'il faudrait. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pas tant pourquoi cet article, puisque évidemment il détaille une évolution majeure de votre sujet de recherche, c'est-à-dire la manière dont le big data, on va revenir sur ce qu'est le big data, mais en gros le traitement de beaucoup de données change la collecte et la gestion du renseignement. Mais donc la question, c'est pas tant pourquoi cet article, puisque évidemment c'est très important, mais pourquoi à ce moment-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au milieu des années 2010, il vous semble que ce soit assez indispensable de faire le point un peu sur ce concept appliqué au renseignement ?
Bien, tout d'abord, vers le milieu des années 2010, et sans doute suite aux fuites qui ont été orchestrées par Edward Snowden sur les capacités de collecte de données de la National Security Agency américaine, les chercheurs en études de renseignement, mais surtout les chercheurs en relations internationales, ont commencé à se pencher sur les questions ou la question des données massives et spécifiquement de leur usage par les grandes agences de renseignement. On trouvait à ce moment-là, avec mes deux collègues Stephen Coulthard et Shahryar Hossein, que beaucoup des analyses qui avaient été produites dans le monde universitaire, surtout en sciences sociales, brûlait une étape. Qu'on parlait beaucoup de big data, de machine learning, donc d'apprentissage automatique, de surveillance algorithmique même, en se penchant surtout dans la littérature sur la question qui est très importante, qui est la question des libertés fondamentales, de l'éthique des algorithmes, qui sont des questions qui sont importantes, mais ce n'est pas tout. Et donc on avait cette impression que de temps en temps, certains chercheurs faisaient peut-être un amalgame entre certains des concepts clés. L'idée de big data, celle de la surveillance, l'idée même de le concept d'intelligence artificielle, et donc que la littérature avait en quelque sorte brûlé une étape. Donc, comme très souvent avec les articles académiques, l'article a été inspiré par un mécontentement, une forme d'insatisfaction avec les discussions, les débats qui existaient déjà dans le champ, en se disant qu'en fait, comme tout bon chercheur ou comme tout bon élève, on devrait plutôt commencer par creuser le concept et bien comprendre ce dont on parle. Donc c'est une des raisons principales, en tout cas de notre point de vue, pourquoi à ce moment-là, c'était pour essayer de répondre à ce qu'on voyait comme un manquement de la littérature.
La deuxième question préliminaire, au-delà donc de ça, c'est aussi comment on travaille là-dessus. C'est-à-dire, je veux dire, c'est évidemment un sujet qui est très stratégique, puisqu'il s'agit de rien de moins que la manière dont on est en train de faire évoluer toute l'activité de renseignement. Et donc, la question, c'est comment est-ce que, sinon vous enquêtez, du moins, comment est-ce que vous avez accès à votre matériau ? Plus exactement, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est difficile, quoi ? Est-ce que, donc, il faut procéder par des proxys, par des articles, par des fuites ou des enquêtes journalistiques ? Ou est-ce que vous êtes à un niveau, disons, d'analyse, disons, transversal, qui fait que vous n'avez pas non plus besoin d'avoir du confidentiel défense et que donc vous pouvez parler avec les acteurs qui font ce changement plus ou moins en temps réel ?
Un peu des deux, je dirais. Donc, par nature, évidemment, quand on fait de la recherche sur les questions de renseignement, voire même sur les questions de sécurité nationale et internationale, il y a pas mal d'obstacles à la recherche. Évidemment, on ne peut pas prendre le téléphone, appeler la NSA ou la CIA et directement avoir des informations sur comment est-ce qu'ils utilisent le big data. Pourtant, quand même, dans la communauté américaine du renseignement, on a un certain niveau de transparence avec des interventions publiques qui ont été faites par des directeurs d'agence, voire des sous-directeurs d'agence, voire même des officiers supérieurs des armées qui parlent publiquement de cet usage des big data. On a des informations qui sont publiques aussi sur les sites des grandes agences de renseignement et de la défense américaine dont vous avez déjà parlé dans le podcast, qui sont par exemple la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, et son équivalent au sein de la communauté américaine du renseignement, qui est la IARPA, donc Intelligence Advanced Research Project Agency, qui font des appels d'offres, par exemple. Donc ça nous donne certaines informations sur le type de technologie que les services de renseignement, la communauté américaine du renseignement essayent d'acquérir. Et puis, j'avais quand même à l'époque, je travaillais à l'Université du Texas, une insertion dans des réseaux de spécialistes sur les questions de renseignement ou sur les questions du big data, disons. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'article est un article qui est écrit ensemble avec deux collègues, Steve Coulthard, qui est aussi un spécialiste en gros des politiques publiques, disons, et Shahriar Hossein, qui lui est un professeur qui travaille directement en informatique sur des questions de big data, qui a fait des projets de recherche pour le gouvernement américain, qui est en charge d'un laboratoire de recherche appliquée qui fait de l'utilisation du traitement de données massives, et donc qui sait plus ou moins de quoi il parle, certainement plus que Steven et moi à l'époque. Donc on a utilisé cette espèce d'approche interdisciplinaire qui fonctionne juste comme un petit groupe de recherche à trois, disons, afin d'utiliser nos différents réseaux, nos différentes compréhensions du problème et d'essayer de mettre ça ensemble. Donc en fait, l'article, c'est surtout une question de dialogue interdisciplinaire et d'essayer d'importer certains des débats, certaines des pratiques qui existent déjà dans la recherche en informatique et de les traduire pour un public plutôt sciences sociales et relations internationales.
Bah alors, entrons tout de suite là-dedans. Alors, il faut entrer dans le cœur du sujet et on va préciser donc tout de suite ce qu'on entend par big data. Je vais donner une définition très basique que vous allez raffiner, mais disons, dans son approche la plus élémentaire, on pourrait dire que c'est la capacité à gérer et à trier, à tirer du sens de très grandes quantités de données, notamment à l'âge d'Internet et des technologies de l'information. Mais au fond, c'est aussi là que c'est intéressant, c'est que ça correspond assez bien aux renseignants, puisque dans une certaine mesure, ça a toujours été le rôle du renseignement de traiter, de faire sens dans un objectif de sécurité de beaucoup d'informations qui arrivent.
Tout à fait, tout à fait. Alors, certains chercheurs font ici une distinction entre les termes données, qui sont, disons, des symboles alphanumériques même, donc des 1, des 0 par exemple. Ensuite, on a le terme information. L'information, ça a un sens. La donnée n'a pas spécifiquement de sens, c'est juste brut. L'information interprète des données déjà et leur donne un sens. Et puis, lance plusieurs informations qui sont recoupées, analysées, contextualisées, ça peut nous donner du renseignement. Donc, il faut bien marquer cette différence entre données, informations et renseignements, voire même, de manière plus générale, le savoir et les connaissances, qui serait une quatrième étape ici. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que les données de masse ou le traitement de données de masse, c'est pas nécessairement du renseignement de masse. Le renseignement, c'est de la donnée qui a été distillée afin d'en tirer des informations qui sont pertinentes.
Ouais, alors c'est effectivement la première étape qui est intéressante, c'est la capacité à travers littéralement un océan de données qui arrivent dans tous les sens, qu'on capte de diverses manières, réussir à les trier, à les organiser et à du coup, disons, en faire un matériau propice à, c'est ce qu'on appelle miner, c'est le data mining, c'est-à-dire en faire, disons, un matériau auquel il sera même possible, une fois qu'on saura ce qu'on a un peu envie de chercher, de donner du sens.
Oui, alors ce qu'on met en évidence dans l'article, c'est une définition déjà un peu plus générale du big data qui n'est pas seulement basée sur le volume de données, mais aussi sur leur vélocité, la manière dont les données changent dans le temps, leur variété aussi, avec plein de types de données différentes. Et un des autres grands V qui définit le big data, donc on a volume, vélocité, variété, on parle aussi de valeur, la valeur qui est donnée ou qu'on arrive à soutirer de cet ensemble de données. Et au niveau de cette valeur, ce qu'on fait dans l'article, c'est d'essayer de considérer quelle est ou d'évaluer quelle est la valeur de ce traitement de données, de cet objet big data dans le domaine du renseignement. Et quand on parle de renseignement, on voit que les données massives ne sont pas seulement là pour, ou que ces instruments de big data ne sont pas seulement là pour recueillir ou pour collecter de l'information, mais que ces instruments peuvent aussi aider à orienter la recherche de données et donc de renseignements, par exemple en identifiant des cibles, à en effet recueillir des données de manière plus ou moins automatique en ligne, par exemple, mais aussi à préparer, à exploiter ces données, par exemple à les traduire de manière automatisée. Enfin aussi à soutirer de l'information de ce grand ensemble de données, ce qui serait en partie de l'analyse, même si la manière dont on définit l'analyse de renseignement dans le champ des recherches sur le renseignement et dans notre article, c'est qu'il y a une valeur ajoutée par l'analyste lui-même qu'un algorithme n'arrive pas à faire. Et donc on souligne vraiment dans l'article l'importance de l'être humain.
Parlons-en maintenant. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'avec le big data, se modifie dans une certaine mesure, ou en tout cas on a l'impression que se modifie la boucle du renseignement, ou en tout cas dans un contexte habituel de ce qu'on appelle le U-Mint. Bon, je renvoie tout le monde par ailleurs au podcast qu'on a fait avec Paul Charon où il expliquait ça très bien, mais donc le U-Mint, c'est-à-dire le Human Intelligence, le renseignement depuis des sources humaines, globalement, traditionnellement, quelqu'un veut savoir quelque chose, et donc on va chercher par des moyens divers les réponses à ces questions. Là, avec le big data, c'est un peu plus compliqué, puisque le principe du big data, c'est aussi, dans une certaine mesure, de laisser les machines parcourir beaucoup de données pour découvrir des choses. Alors, ensuite, il faut définir ce que c'est que ces choses, mais c'est des tendances, des anomalies. C'est-à-dire, il y a aussi une certaine mesure où on laisse la machine faire, même si, et c'est aussi le propos de votre article, c'est là qu'il est particulièrement fort, c'est que l'humain ne disparaît évidemment pas, puisque c'est lui qui décide quand même à la fois de quelles données collecter et de quelles tendances chercher.
Ça dépend, à mon avis, des algorithmes ou des outils qu'on utilise. Donc, il y a un ensemble d'outils du big data et d'applications dans le domaine du renseignement. Donc, ça dépend un peu, à mon avis, du type d'application, du type d'outil dont on parle. Ce dont on parle dans l'article aussi, c'est en effet qu'on a l'impression que le big data vient en partie changer ou nous permet de comprendre ce cycle du renseignement d'une manière différente. D'habitude, dans la théorie au moins, sur les pratiques de renseignement, on parle d'abord d'orientation de la recherche, donc on reçoit des orientations, disons, politiques avant qu'on recueille des données. Donc par exemple, il nous manquerait de l'information sur tel personnage, il y a une demande politique d'avoir plus d'informations sur un individu, et donc on commence à recueillir des informations sur cet individu et puis de les analyser. Avec le big data, on a peut-être en partie une inversion de ce cycle de renseignement où les données sont tout d'abord recueillies et ensuite le recueil des données et leur traitement par des outils automatisés, disons, ou des ordinateurs, leur traitement permet d'ensuite orienter la recherche de données ou réorienter la recherche de données et de renseignements. Il y a, à travers l'histoire de manière plus générale du renseignement, une tension, ou en tout cas elle est quelquefois perçue comme une tension entre le renseignement d'origine humaine, le HUMINT, et le SIGINT, Signals Intelligence, donc le renseignement plus technique, le renseignement lié aux données, en particulier les données électromagnétiques, même si le big data c'est plus que juste les données électromagnétiques. Donc on pourrait percevoir, et certainement ont cru voir que l'avènement du big data c'est en gros la fin du renseignement humain. En vérité, ceux qui ont une bonne connaissance historique des pratiques de renseignement savent qu'il peut y avoir des tensions entre les deux, mais que les deux peuvent travailler de pair. Et que donc, le big data peut aider, par exemple, à identifier des individus qui seront des sources de renseignement humain dans le futur. Donc les deux peuvent travailler de pair et ne sont pas nécessairement en compétition l'un avec l'autre. Même si au niveau des budgets, on peut imaginer qu'en interne, de manière plus organisationnelle, ce qui nous intéresse aussi en tant que chercheur en sciences sociales, il y a des tensions entre différentes sous-directions, disons, ou différentes organisations en charge plutôt du renseignement humain et opérationnel et ou du renseignement technique.
Ouais, mais alors du coup, il faut peut-être maintenant préciser quel genre d'application concrète on peut tirer dans l'enseignement de ce big data. Alors il y a des tendances, par exemple, il peut y avoir des ce que vous détaillez très bien dans l'article, c'est il peut y avoir des surveillances de réseaux sociaux pour essayer de discerner des signes avant-coureurs de tel ou tel phénomène sociétal. Il y a aussi peut-être on peut parler d'une application dont on parle souvent, notamment appliquée aux drones. C'est la recherche de signatures, de patterns, de récurrences qui permettent d'identifier, même sans avoir une identification, disons, nette, visuelle, d'un personnage, ou en tout cas d'un type de personnage d'acteur. Typiquement, on sait que ça a beaucoup été utilisé en Afghanistan pour essayer d'identifier des responsables talibans, par exemple, à travers leur parcours. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, disons, machinisé. Par le genre d'outils qui font du big data.
Oui, tout à fait. On pourrait même présenter ça un peu comme des applications de court et de moyen, voire des applications de long terme. Donc à court terme, on a évidemment l'identification d'individus qui sortent de la norme ou justement qui ne sortent pas d'une certaine norme qui a été définie par des algorithmes. Et les algorithmes eux-mêmes ont été définis par des êtres humains, par des analystes sans doute, par des spécialistes du big data aussi. Et donc qui permettrait ici à court terme d'identifier des cibles, disons. Que ce soit à travers l'usage de drones, qui sont en fait des plateformes de recueil de renseignements, avant tout. Et à plus long terme aussi, on le voit dans certaines des interventions qui ont été faites par des hauts placés du renseignement américain, il y a un effort pour utiliser les données massives, le traitement des données massives, afin d'essayer de comprendre des mouvements de long terme, des évolutions sociétales, disons, des évolutions politiques, pour essayer de les anticiper. Donc, on peut penser, par exemple, un exemple théorique ici, mais à une révolution ou un ensemble de révolutions type printemps arabe.
Ouais, alors, et puis, en fait ça pose toute la question de réussir à délimiter le paramètre du big data pour en faire, à la fois pour en faire une utilisation optimale et en même temps pour pas être piégé par ce que vous appelez le buzzword, c'est-à-dire pour pas en avoir une pensée, disons, magique comme d'un outil qui résout tous les problèmes. Une application dont vous parlez aussi beaucoup dans l'article, c'est par exemple la visualisation de connexion. C'est-à-dire une fois qu'on a une tâche, qui est en l'occurrence voir la connexion par exemple entre des groupes terroristes, ça, la machine, ce qu'elle permet de faire, c'est de visualiser, d'établir à la fois l'intensité et, disons, la géographie de connexion à l'intérieur, disons, d'un spectre qu'on lui définit.
Tout à fait. Et dans ce cas-là, il faut quand même encore qu'il y ait un être humain, un analyste, qui va essayer de donner du sens à ces données, ces visualisations qui nous sont fournies par des outils big data, comme par exemple le logiciel Palantir, dont on a beaucoup parlé en France. Ces visualisations, il faut encore les interpréter. Et ça, c'est le rôle d'être humain, d'hommes avec un grand H, que sont les analystes. Et donc, ce qu'on essaye de souligner aussi ici dans l'article, c'est que, oui, on a toutes ces applications du big data et toutes ces solutions qui nous sont offertes par les outils du big data, mais elles ne sont pas suffisantes, elles ne peuvent pas remplacer l'être humain, le rôle des êtres humains au sein du renseignement et au sein des pratiques de sécurité nationale. Les pratiques de sécurité nationale ont été établies par les hommes pour les hommes, et donc nécessairement, les outils du big data n'ont pas vocation, je dirais, à remplacer de manière complète ou totale le rôle des êtres humains dans le cycle du renseignement, dans les pratiques de renseignement.
Ouais, mais alors du coup, c'est le, disons, le dernier point, c'est les limites et les précautions à prendre par rapport à la fois au concept de big data et à l'activité qui, précisément parce qu'elle est très puissante, peut justement, disons, amener à s'y fier peut-être plus qu'il le faudrait. Et la première, vous y avez fait un peu référence au début en parlant des V, mais une des premières limites à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la véracité et disons la fiabilité de l'information qui est traitée, puisqu'on envoie une machine tirer du sens de données, mais encore faut-il vérifier que les données sont bonnes. Et un exemple amusant que vous prenez pour en démontrer les limites, c'est pas un exemple de big data du tout, enfin c'est un exemple qui précède évidemment l'ère du big data, mais ça renvoie à la guerre du Vietnam.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un exemple lié à la guerre du Vietnam, pendant laquelle le secrétaire de la Défense américain a pris une série de décisions en se fondant sur des données qui lui avaient été fournies par ses WizKids, donc des statisticiens qui travaillaient avec le secrétaire McNamara. Et qui en fait utilisait des données pour essayer de comprendre le conflit, notamment le nombre de pertes américaines pendant le conflit et de pertes ennemies pendant le conflit. Mais en fait, ces données n'étaient pas fiables à la base, ou en partie, on pense que ces données n'étaient pas fiables parce qu'il y avait les décideurs américains donc sur le terrain avaient des raisons personnelles, disons, de être un peu trop optimiste quand il reportait les données des pertes ennemies et peut-être revoir à minima les pertes américaines. Et donc, en fait, quand la donnée de base ou les données de base sont faussées, leur analyse, forcément, va être faussée aussi. Eh bien, on a le même problème avec le big data. Par exemple, si on pense à des outils qui vont traiter et interpréter des données qui sont partagées sur les réseaux sociaux, eh bien, l'ensemble des données sur Twitter et Facebook, par exemple, ne représentent pas l'ensemble de l'activité humaine. Elles représentent seulement les personnes qui utilisent Twitter et Facebook. Et c'est une population relativement limitée. Donc, on a déjà une forme d'échantillonnage ici, pour utiliser un terme un peu plus scientifique. Et puis aussi, évidemment, sur des activités comme Facebook et Twitter, on sait très bien que il y a de la désinformation et que donc certaines des données vont plutôt être trompeuses et vont poser des problèmes de fiabilité aux outils du big data.
Alors enfin, peut-être quand même préciser une deuxième limite, et c'est, vous en parliez déjà tout à l'heure avec disons la nécessité de l'analyste pour donner sens à tout ça, mais vous le résumez assez bien en disant qu'il s'agit aussi de connaître le type de réponse que ce renseignement machinique peut fournir et ceux qu'il a le plus de mal à creuser, et vous le résumez en disant que les machines donnent très bien des types d'informations précises, des circonstances, disons des détails, mais globalement, ce avec quoi la machine a plus de mal, c'est ce qui est une grande partie du renseignement, c'est-à-dire la compréhension et l'interprétation des raisons, des motifs des acteurs, c'est-à-dire en quelque sorte le pourquoi, quoi.
En partie le pourquoi, oui, aussi en partie le comment, je dirais. Donc il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont jusqu'ici qui sont plutôt des activités humaines plutôt que des activités dans lesquelles les ordinateurs vont démontrer une supériorité. Donc on peut penser par exemple à la créativité. La commission sur le 11 septembre aux États-Unis avait de manière assez connue souligné dans un de ses chapitres que l'échec du 11 septembre était dû en partie à un échec de l'imagination de la part des analystes ou de la communauté américaine du renseignement. Bien ici, on voit dans cet article que, de manière assez naturelle, l'être humain va être mieux positionné pour être créatif, essayer de penser en dehors des chantiers battus, et que, par définition, un algorithme, ce sont c'est un champ ou un outil qui a été prédéfini de manière assez spécifique et qui donc fonctionne selon certains paramètres et n'arrivera pas à dépasser ou à penser, comme diraient les anglophones, outside of the box, en dehors de ces chantiers ou de ces paramètres qui ont été prédéfinis. Donc pour toutes ces tâches qui ont trait plutôt à la créativité, l'être humain sera plus important. Pour des tâches qui ont trait à la contextualisation plus générale, puisqu'une bonne partie de l'analyse du renseignement, c'est de contextualiser les données, de créer un narratif autour des données qui ont été recueillies et recoupées. et que l'être humain est mieux à même d'interpréter, de donner un sens, de contextualiser les données afin de les présenter à un être humain, à un autre être humain, c'est-à-dire au consommateur de renseignements. Et donc c'est pour ça que notre argument final souligne une fois de plus le rôle de l'être humain au centre de l'utilisation de ces outils de traitement de données.
Enfin, une dernière question qui est un peu rituelle dans ce format, c'est un article qui date maintenant un peu, surtout dans un secteur qui est en évolution très rapide, puisqu'il est publié en 2017, donc j'imagine qu'il a été écrit en 2015-2016. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce que tout ça a évolué par rapport aux descriptions et aux analyses que vous faites ? J'allais dire comment l'article a vieilli, mais pas vraiment, puisque ça reste très récent, mais au moins, disons, comment est-ce qu'il pourrait être augmenté ou réactualisé aujourd'hui ?
Oui. Déjà, c'est un article qui visait à construire une connaissance interdisciplinaire, une connaissance de base, disons, afin de solidifier la recherche en relations internationales, la recherche en sécurité internationale sur ces questions de sécurité algorithmique, traitement des données massives, etc. Et donc, du fait de son objectif et de sa nature plutôt générale, disons, l'article, je dirais, a en partie bien vieilli. Évidemment, si vous me demandez si un de mes articles a bien vieilli, je vais vous dire que oui, il a plutôt bien vieilli. Il a notamment été réutilisé par une petite dizaine de collègues dans des travaux de recherche qui ont été publiés jusqu'ici. Et donc, je suis content, on est content avec mes co-auteurs de voir que l'article a trouvé une certaine utilité avec certains collègues. Donc là, c'est pas un article qui avait une prétention ou un objectif de changer fondamentalement un champ de recherche. C'est pas un article avec une très forte valeur ajoutée de manière empirique. C'est plutôt un article de défrichement, disons, qui montre comment on peut travailler de manière interdisciplinaire et qui essaye d'établir des bases. Et ces bases, elles n'ont pas nécessairement changé depuis les 3 dernières années. Et j'imagine que dans les 5 à 10 années peut-être à venir, elles n'auront pas non plus fondamentalement changé. Les manières de définir les données massives, leur traitement et la manière dont ces données massives interagissent avec le renseignement évoluent certainement. On le voit par exemple avec l'émergence de nouvelles capacités comme les ordinateurs quantiques, donc les quantum computing, qui est un débat qui est en train d'émerger aussi dans les études de renseignement au niveau de la cryptographie, par exemple. Donc on a certains nouveaux débats qui sont là, mais ce ne sont pas des débats qui viennent remettre en question ces éléments de base qu'on essaye de solidifier ou d'établir plus fermement, dans notre article. Après, une partie de la recherche sur ces questions en études de renseignement, en études de sécurité, est en train d'évoluer vers de la recherche plus appliquée. Donc on a des collègues qui font vraiment, donc plutôt des collègues qui font de la recherche quantitative, qui vont travailler avec des informaticiens afin d'utiliser les outils du Big Data pour faire de la recherche scientifique, pour le coup, sur des questions de sécurité. Donc avec Chariar, par exemple, un des co-auteurs de l'article, on a un peu travaillé ensemble pour essayer de développer un projet qui essaye d'utiliser ses capacités. Donc Chariar est en charge d'un laboratoire de recherche sur le Big Data qui a accès donc à ses capacités. On a essayé d'identifier à travers des publications scientifiques et la publication de brevets des technologies émergentes qui pourraient avoir des effets importants sur la sécurité internationale. Donc c'est une application d'un outil du Big Data avec de l'information qu'on peut trouver en ligne et une application qui peut informer aussi bien le débat universitaire et les efforts d'anticipation que les efforts d'anticipation qui pourraient intéresser des gouvernements, par exemple. Donc ça, c'est pour une des applications, par exemple, une des manières de poursuivre cette recherche.
Très bien, merci beaucoup Damien Van de Puyvel. Je rappelle donc le titre de l'article, Beyond the Buzzword, Big Data and National Security Decision Making, publié en 2017 dans la revue International Affairs. Alors simplement pour dire, généralement les revues, notamment anglophones et prestigieuses comme ça, c'est difficile de trouver des articles sans avoir à payer des abonnements faramineux, ce qui est un vrai gros problème de la recherche contemporaine. Je signale, cela dit, à tous ceux qui s'intéressent à ce genre de recherche et qui n'ont pas d'abonnement en ligne, généralement pour en avoir un, ça passe par une université ou par une bibliothèque de recherche, mais pas toutes. Mais donc le plus simple, en général, si vous êtes vraiment intéressé par un article, c'est souvent d'écrire un mail tout simple à l'un des auteurs en disant que vous êtes intéressé. D'expérience, dans 97% des cas, il vous l'envoie bien volontiers ou il vous envoie au moins une draft, un brouillon, notamment parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on publie intéresse un large public. Merci beaucoup, Damien.
Merci à vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.